Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Françoise Vergès est notre invitée. Cette universitaire et politologue réunionnaise a présidé de 2008 à 2012 le Comité français pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. À ses différents titres, elle a récemment participé au siège des Nations Unies à New York, aux événements organisés autour de la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Françoise Vergès, bonjour.
Bonjour.
Françoise Vergès, vous êtes experte des questions de l'esclavage. Vous avez été présidente notamment du Comité français pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Alors vous êtes ici à New York dans le cadre de travaux aux Nations Unies qui ont eu lieu toute la semaine. Par rapport à cette question de l'esclavage aujourd'hui, donc comment vous définissez votre rôle, comment par rapport à ce comité français donc, que vous avez présidé jusqu'à une époque récente, vous avez envisagé votre travail et ce fameux travail de mémoire sur l'esclavage?
Bon, rappelons, le comité est installé à la suite de la loi dite Taubira, la loi Taubira qui en 2001 reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et ce comité avait pour mission de proposer au gouvernement des mesures à prendre dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la recherche pour que la société française comprennent en quoi elle était concernée. C'est-à-dire que l'histoire de l'esclavage n'était pas simplement l'histoire de personnes là-bas, loin, descendantes d'esclaves, mais l'histoire de toute la société française. Donc le travail est vraiment un travail d'éducation civique et de faire comprendre aujourd'hui que c'est pas simplement de l'histoire ancienne, le passé, mais si on veut comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut aussi connaître cette histoire. Elle a déterminé vraiment le monde dans lequel nous vivons. Et quand je dis ça, je ne dis pas simplement évidemment dans le souvenir même de la déportation de plus de 13 millions d'Africains, dans la souffrance, dans toutes ces mémoires, mais aussi dans le fait que le monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire le Brésil, les États-Unis, les Caraïbes, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Afrique, l'Europe et les pays de l'océan Indien ne seraient pas ce qu'ils sont sans cette histoire qui a eu des conséquences très importantes dans beaucoup de domaines, dans les domaines de la culture, dans les domaines de la paix, dans les domaines du développement, dans les domaines économiques, dans les domaines du droit. On oublie que très souvent, la manière de penser ce qu'était le travail libre contre le travail non libre vient aussi de cette époque. Donc voilà, c'est de faire comprendre en quoi cette histoire doit nous intéresser, en quoi elle peut nous faire comprendre pourquoi l'esclavage perdure. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour abolir les nouvelles formes d'esclavage? Donc pour moi, je le vois comme un rôle de transmission et d'éducation civique.
Alors par rapport justement à ce comité, dont vous parliez de la loi de 2001, la loi Taubira, il a été, ce comité créé juste après...
Il a été créé en 2004, sous la présidence de Maryse Condé, l'écrivain guadeloupéen, qui démissionne en 2008. Et sous la présidence de Maryse Condé, j'étais la vice-présidente et je suis nommée présidente à partir de 2008.
Quelles ont été les réactions au tout début, puisqu'on part donc de la France au sens large, donc la France métropolitaine, mais bien sûr aussi la France des fameux dom-toms?
Rappelons que dans la France hexagonale, il y a un grand silence pendant très longtemps. Quand l'esclavage est aboli en 1848, après, vous en trouvez très peu traces dans les grands récits nationaux. On apprend l'empire colonial, mais on n'apprend pas l'esclavage. On a oublié. Et le souvenir, la mémoire va venir des départements justement d'outre-mer qui avaient connu l'esclavage. Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Dans les années 60-70, en disant nous avons une langue, les langues créoles, nous avons des rites, nous avons des musiques, nous avons des histoires qui ne sont pas celles de notre région de France. Et ce mouvement va conduire dans l'Hexagone en 1998, lors du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, à une prise de conscience par des jeunes issus justement des migrations venues des Antilles ou aussi du monde africain, en disant mais maintenant l'histoire doit s'écrire autrement. On doit aussi tenir compte donc de ces personnes. Et ça va briser quand même un silence et la loi va être vraiment un tournant parce qu'elle va légitimer une demande. Évidemment, le travail il était là, des associations avaient beaucoup fait de choses, des chercheurs, mais la loi va permettre de s'appuyer et d'aller voir donc les institutions ou les autorités en disant « Cette loi est une loi de la République française, que faites-vous pour la respecter ?» Puisque la loi demandait notamment que des initiatives soient prises pour que cette histoire soit connue.
Alors ça c'est quand même l'accueil par un public acquis, on va dire, mais par rapport à la fameuse France métropolitaine ou hexagonale qui peut-être pourrait être réticente ou aurait mal accueilli cette fameuse loi Taubira.
Bon, alors quand la loi est prise en 2001, il n'y a pas beaucoup de réactions vraiment dans la société. Mais c'est vrai que le travail, en fait, la loi, elle a eu cette intelligence d'instituer un comité qui va la faire vivre. Donc elle ne va pas rester simplement une déclaration. Je dois dire qu'en fait, dans la société française, chaque fois que je vais donner des conférences dans des petites villes ou dans des grandes villes de la métropole, je ne rencontre jamais d'hostilité. Je rencontre un désir de comprendre, parfois des confusions, parfois des mécompréhensions, mais jamais d'hostilité. Je pourrais dire que la résistance vient plutôt de ce qu'on appelle les élites. Qu'elle soit médiatique, qu'elle soit politique ou qu'elle soit universitaire. C'est-à-dire pas encore vraiment une place importante donnée à cette histoire. Ce qui fait qu'on continue à ne pas très bien la comprendre. Il n'y a pratiquement pas d'émissions à la télévision, il y a très peu d'émissions aussi à la radio, pour rendre cette chose familière, pour expliquer comment ça s'est passé, pourquoi ça dure des siècles, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc il y a encore un travail, mais dans la société même, si nous voulions répondre aux demandes qui viennent de la société, de venir parler, de faire des conférences, nous n'arrêterions pas. Beaucoup de villes, Bordeaux, un des grands ports négriers, Nantes, premier port négrier, mais aussi Lorient, La Rochelle, mais aussi d'autres villes ont pris des initiatives de plus en plus, même des petites villes qui n'ont pas de lien direct avec cette histoire ou qui ne le savent pas. Je me souviens de premières conférences à Rouen, et qu'on a expliqué aux gens de Rouen que Rouen avait été un port négrier assez important, ils ne pouvaient pas le croire, ils n'arrivaient pas. Donc c'est aussi faire ressurgir une histoire que les gens ne connaissaient pas, mais envers laquelle ils n'ont pas d'hostilité, en fait, beaucoup moins qu'on aurait pu penser. Je pense que la société française est beaucoup plus prête à entendre et à essayer de comprendre qu'on le pense.
Alors est-ce que justement le travail du comité c'est de regrouper, de rassembler ces deux publics en schématisant, notamment le public des dom-tom et cette France qui est un peu oublieuse, ou est-ce que vous allez au-delà de ça? Est-ce que c'est un travail qui est beaucoup plus général et vous essayez vraiment de prolonger le travail législatif qui a été fait par notamment Madame Taubira?
Si vous voulez, les associations des ultramarines, elles font ce qu'elles ont à faire, elles le font très très bien. Moi je pense que notre rôle c'est de faire comprendre en quoi c'est l'histoire de la France. Ce n'est pas l'histoire de descendants d'esclaves, c'est l'histoire de la France. La France a mis en place tout un système pour qu'il y ait des bateaux négriers, des plantations esclavagistes. Donc c'est son histoire. En quoi ça la concerne? Qu'est-ce que ça a changé pour elle, pour la société française? En quoi ça a changé? Et donc, ça ne sépare pas les métropolitains, on pourrait dire, mais c'est toute la société française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la société française, aujourd'hui en 2013, qu'est-ce qu'on voit? Des descendants d'esclaves, des peuples autochtones, les Amérindiens, les Kanaks, des descendants de bagnards, des descendants de colons, des descendants de migrants. C'est extrêmement divers. C'est pas, je sais pas, moi, c'est pas un paysan blond et bon. C'est très divers. Et pour comprendre pourquoi c'est divers, on tire le fil et on fait comprendre que c'est la longue histoire de la colonisation française qui amène cette complexité, cette diversité aujourd'hui. Une des choses, par exemple, quand même, qui est liée à l'esclavage, c'est le racisme anti-noir. Parce que très tôt, dans la langue française, au tout début du XVIIe siècle, dans les dictionnaires, noir et esclave sont synonymes, sont présentés comme des synonymes. Donc être noir, c'est être esclave. Donc il y a un lien qui va se faire après, très fort, entre la couleur de peau et le statut d'une personne. C'est-à-dire avant même qu'on sache, c'est ce que Frantz Fanon disait, c'est-à-dire qu'il est jugé d'abord par la couleur de sa peau et personne ne se demande, il est obligé, on pense qu'il doit aimer la biguine ou des choses comme ça. Il dit, mais pourquoi je dois porter ce fardeau? Donc c'est, si vous voulez, la déconstruction aussi de ces clichés qui empêchent la société française justement de dépasser cette histoire, de l'accepter comme étant la sienne, de voir quels en sont les héritages, à la fois négatifs et puis d'autres bon, peut-être plus intéressants, plus positifs. Et de travailler à partir de là pour évidemment combattre des pratiques qui sont des pratiques de discrimination et des pratiques racistes.
Vous parliez de l'oubli tout à l'heure par rapport aux livres, aux manuels d'histoire notamment. La France souvent se targue d'être le pays des droits de l'homme, on n'est pas à un paradoxe près. Pourquoi justement donc on est encore dans cette situation même si vous dites que les choses s'améliorent?
Il y a une chose qui est particulière et quand on est aux États-Unis on peut le comprendre. Aux États-Unis l'esclavage est sur le sol du pays. En France, c'est externalisé, c'est là-bas, c'est loin. Donc on peut toujours construire l'Hexagone comme le pays des hommes libres, le pays des droits de l'homme, et un peu oublier ce qu'on est en train de faire au même moment sur d'autres territoires, un peu loin des yeux, donc loin de la conscience. Et il faut rapprocher ces territoires. La carte historique de la France, si je peux m'exprimer ainsi, est une carte qui reste hexagonale. Les châteaux de la Loire, les rois, les reines. Elle oublie que très très tôt, la France se fait avec ses colonies. Et que ces colonies, elle en a besoin, mais pas seulement pour des raisons économiques. Elle en a besoin aussi, ça va transformer sa manière de vivre. Je veux dire, le café, prendre son café le matin, le petit café au comptoir. Mais s'il n'y avait pas eu de sucre colonial, il n'y avait pas de café. Les premiers cafés s'ouvrent au XVIIIe siècle. Les premières boutiques à tabac, des cafetières, les théières, toute une industrie de la porcelaine française qui est si fameuse. est lié d'une manière indirecte à l'esclavage colonial. Donc c'est de faire comprendre comment ça a contaminé, ça a pénétré beaucoup plus dans la société qu'on ne pense. Et donc c'est devenu tellement familier qu'on a oublié sur quoi ça reposait. Et donc de dépasser cette idée que la France c'est que l'Hexagone. Encore aujourd'hui, la France est le seul pays d'Europe qui a tant de territoires aux quatre coins du monde, et des territoires extrêmement différents les uns des autres, avec des histoires, des cultures, des langues très différentes. Je veux dire, en Nouvelle-Calédonie, c'est des cultures extrêmement différentes de celles qui sont à Tahiti, de celles qui sont en Guyane, de celles qui sont à Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles qui sont dans les Antilles, de celles qui sont à Mayotte ou à La Réunion. Donc on est dans une explosion comme ça de différences. Et malgré tout, en France, les statistiques nationales continuent à être celles de l'Hexagone. Les cartes, quand on dit la France, je ne sais pas, vous ouvrez un journal national, on dit la France, ben vous voyez la carte de l'Hexagone et la Corse.
Mais ça, on pourrait le dire aussi par rapport aux lois de décentralisation et le fait que la France jacobine, la France centralisatrice, a toujours été seulement axée sur la France hexagonale, mais sur la France parisienne.
Oui, tout à fait. Déjà, c'est une attitude envers ses propres régions, les propres régions de l'Hexagone. C'est renforcé par le fait que, si vous voulez, quand même, bon, la distance, évidemment, géographique, mais la distance aussi dans la conscience. C'est-à-dire, c'est toujours traité comme l'outre-mer. Donc, c'est l'histoire de l'outre-mer. C'est les ultramarins. C'est comme si c'était des personnes un peu, pas tout à fait des Français. Et alors, cette question de qu'est-ce que ça signifie d'être Martiniquais français, d'être Guyanais français, d'être Kanakais français, d'être Tahitien, il reste quelque chose sur lequel ça bute, si vous voulez. Et le grand défi de la République française aujourd'hui, c'est de réimaginer un nouveau récit commun, partagés par tous, qui tiennent compte de toutes ces histoires fragmentées, singulières, et qui en même temps appartiennent au même ensemble politique.
Alors justement, par rapport à ce travail universitaire, une recherche approfondie, vous avez été également, et vous l'êtes encore aujourd'hui, donc amené à côtoyer les cercles onusiens, on va dire, les organisations internationales. En quoi justement l'ONU est pertinente par rapport à ce travail? En quoi elle donne une sorte de légitimité? Elle la renforce?
L'ONU reste quand même la voix de la communauté internationale. Bon, c'est une formule, mais c'est une vérité. Et quand quelque chose se passe à l'ONU, c'est la voix de cette communauté internationale qui s'exprime. Bon, on pourrait faire mieux, mais enfin, dans beaucoup de pays, il y a des mouvements de réappropriation de l'histoire, justement, de ces mondes marginalisés, oubliés, que ce puisse être les peuples autochtones ou les descendants d'esclaves ou les réfugiés aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au niveau international, cela manque encore. Une voix forte, c'est-à-dire pour qu'on nous comprenions que l'esclavage colonial a constitué dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même 4 siècles d'histoire, c'est très long, a constitué un moment extrêmement important qui construit en grande partie le monde dont nous avons hérité. Rappelons-nous aussi encore, si je peux me permettre de citer encore Aimé Césaire, puisque c'est le centenaire de sa naissance à cette année, dans le discours sur le colonialisme, il explique comment, si vous voulez, dès que vous avez des régimes de brutalité, de très grande violence mis en place quelque part, ça va revenir. Et donc les régimes de brutalité, d'exclusion, de transformation d'êtres humains en objets qui avaient eu lieu donc sous l'esclavage colonial et un peu sous le colonialisme vont revenir en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme. Et donc il faut réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'esclavage colonial? Qu'est-ce que l'esclavage colonial apprend sur notre monde? C'est sur ça qu'il faut réfléchir. Et l'ONU a quelque chose à faire à ce niveau. Pas simplement des déclarations, mais une vraie éducation. Et une vraie valorisation, on ne connaît pas non plus assez les figures, les grandes figures. On connaît Lincoln, mais on devrait connaître Toussaint Louverture. On connaît peut-être aussi les grandes féministes, Elizabeth Cady Stanton, mais il faut qu'on connaisse la mulâtresse Solitude ou Nanny, la grande marronne jamaïcaine. Il faut, si vous voulez, que des personnes comme ça deviennent un bien commun. Ça appartient au patrimoine de l'humanité. Et donc, il faut les faire rentrer, il ne faut pas que ça reste à part. Et l'ONU, là, a joué un rôle extrêmement fondamental.
Françoise Vergès, merci. Je rappelle que vous êtes donc experte en termes d'histoire et de mémoire de l'esclavage, que vous avez été notamment présidente du Comité français pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Merci.
Merci.
Voilà, c'est ainsi que se referme ce magazine Escale consacré cette semaine à la mémoire et à l'histoire de l'esclavage, un magazine préparé par Jérôme Longuet avec la complicité de Florence Westgaard et de Carlos Macias. Escale que vous pouvez retrouver comme tous nos autres programmes sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.